les servi pour les ruptures, Lisa Bresnève. Ouais. Hein, ça vous ressemble bien, cette musique, j'ai l'impression. Hein, une sorte de chaos que vous allez essayer d'organiser. Mais est-ce que votre but n'est pas de déstabiliser le lecteur ?
Oh oui, moi j'aime jouer à cache-cache, comme une enfant.
Et surprendre.
Voilà.
Ne pas être là où on vous attend.
Exactement. Et ouais. Je n'aime pas les mono... Enfin, j'apprécie certaines personnes monomaniaques, mais moi je ne me supporterais pas si je ne faisais qu'une seule chose. C'est-à-dire, comme la plupart de mes amis écrivains, qui se privent de beaucoup de joie, même maternelle, parce qu'elles sont persuadées que si elles font un enfant, elles n'auront plus d'inspiration, par exemple. Mmh. Moi, je ne peux pas me priver, par exemple, de ça. Je ne peux pas me priver d'écrire pour les enfants. Je ne peux pas me priver de concevoir des spectacles ou d'écrire du théâtre.
Vous allez faire plutôt la liste de ce dont vous vous privez dans la vie. Bon, enfin, fermons la parenthèse et le silence. Alors, effectivement, revenons à l'aspect littéraire. Effectivement, il y a chez vous, Lisa Bresnève, ces textes savants, ces traductions, on a parlé, des textes où se mêlent le souvenir, l'imagination, des livres pour enfants, vous les avez évoqués, une sorte de bio déguisé ou pas, du cinéma, mm-hmm. hein, voilà, et même des dramatiques. Donc, on a même l'impression, d'ailleurs, il y a même eu un ballet, je crois, qui a été fait à partir d'un de vos textes. Donc, tout est possible. Hein. Toutes les formes artistiques et littéraires seront bienvenues dans votre démarche. Parce qu'elle démarre, la démarche. Encore petite.
Ben, par exemple, là où on ne m'attendait pas, je reviens du Japon. J'étais en panne plutôt technique pour écrire mon scénario. J'avais été là-bas pour écrire un film. J'avais trop d'idées. Donc, je ne savais pas par où commencer. Et une amie m'appelle, une amie d'enfance, qui est devenue réalisatrice, et qui me dit « Comment vas-tu ? Que fais-tu en ce moment ?» et tout. Ça me ferait tellement plaisir de te revoir. Alors je lui dis « Je suis en panne sur un scénario de long-métrage. » Je me dis « Pas possible, mais tu sais que moi aussi, je viens de réaliser 4 courts-métrages, et je suis en panne sur mon long-métrage. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de s'aider l'une l'autre ?» Donc je lui dis « Mais de quoi ça parle, ton truc ?» Elle me dit « C'est Calamity Jane. » À travers les lettres à sa fille. Calamity a abandonné sa fille à l'âge de 4 ans pour faire revenir son mari, Walt Billy Cock. Et hélas, ça ne fera pas revenir son mari, au contraire. Donc, sa fille donc, est confiée à un capitaine anglais qui repart sur Londres. Et donc, la petite fille va grandir et Calamity va écrire tous les jours, pratiquement, des lettres à sa fille sans jamais lui en envoyer une seule. Et donc, cette histoire nous a fascinés puisque nous, on est toutes les deux mamans. Et on a travaillé donc ensemble sur l'écriture de ce long métrage. Et ce qui était très étonnant, c'est que je me disais « Ah, enfin, je vais être tranquille. Plus de Chine, plus de Japon, enfin l'Asie, elle va dormir un petit peu, ça va me faire du bien, ça va me faire des vacances. Puis un western, moi, un film de genre, parfait. » Donc je fais des recherches minutieuses sur la ville dont est issue Calamity Jane et surtout là où elle est morte. Là où elle a vécu ces derniers instants, ces dernières années, où elle avait la vue qui baissait, elle a été atteinte d'une cataracte traumatique. Et c'était vraiment donc une femme, la meilleure tireuse de l'Ouest, qui perd la vue, enfin, vraiment une fin très, très triste. Et donc, la ville où elle habitait s'appelle Deadwood. Et il se trouve que je fais des recherches sur Internet. Et qu'est-ce que je vois ? À Deadwood, une très, très grande carrière avait été ouverte. Il travaillait qui ? Des mineurs chinois. Qui avaient fait quoi ? Ils avaient ouvert l'une des plus grandes fumeries d'opium existantes sur le territoire américain en 1903. Et me voilà avec des Chinois. Évidemment, on les introduit, on a fait des très belles scènes, etc. Or, il se trouve que là, ce qu'on nous a dit, donc on a présenté le film au CNC, et on nous a dit, vous êtes des femmes, vous ne pouvez pas écrire un western, et vous êtes françaises, vous ne pouvez pas vous attaquer au mythe de Calamity Jane. Bon, à la rigueur, vous l'adaptez de nos jours, on fera peut-être quelque chose pour vous. Alors, ce qui fait que c'est qu'on l'a adapté, là, et que de nos jours...
Vous les avez écoutés ?
On n'avait pas le choix, sinon on nous donnait pas la possibilité de faire le film.
Devant de tels préjugés, il faut sortir son flingue, écoutez.
C'est le CNC, c'est le centre. Mais bon, heureusement, on a la chance quand même. C'est pour Louise Sterme, donc la réalisatrice, c'est son premier film, c'est son premier bébé, pour elle, ça ne sera pas non plus une immense concession, puisque le jour où on lui fera confiance, elle tournera vraiment son western.
Alors, Lisa Bresnève, les enfants, vous en parliez. Donc, il y a effectivement cette expérience de la maternité qui, j'ai l'impression, était forte et puissante chez vous. Mais vous aviez commencé à écrire des livres pour enfants avant.
Oui, tout à fait.
En fait, donc, déjà, il y avait ce désir de parler aux enfants.
Oui.
Aux enfants ou à l'enfant que vous étiez ?
aux enfants aux mal-aimés et aux malheureux. Je vais vous expliquer pourquoi.
Alors, un peu vous ?
Bah oui.
Voilà, donc c'est une partie de la réponse. Alors, vous m'expliquez.
Il y a un livre que j'adore de Joël Michel qui s'appelle « Les mal-aimés ». C'est une amie aussi à moi qui compte beaucoup dans ma vie. J'avais un désir à un moment, c'était de... Monsieur Pimpaneau, donc mon professeur, me dit « Vu tes recherches, en France, tu n'y arriveras pas. Aucun professeur ne sera digne de toi. Il faut que tu partes aux États-Unis. » Bon, il se trouve que j'ai une tante qui habite là-bas. Je me dis « Pourquoi pas ?» Je fais des recherches et je trouve qu'à New York, il y a un hôpital psychiatrique qui soigne les enfants, donc malades, de maladies mentales graves, en leur apprenant les caractères chinois. Et que ça marche encore mieux avant qu'ils n'aient des notions alphabétiques. Et bon, ça ne fait qu'un tour dans ma tête. Je me dis, je vais essayer de tenter une expérience, voir. Mais ça, c'était aussi, c'était purement humain, c'était pas tellement... tellement matériel. J'avais pas du tout envie d'aller aux États-Unis, mais j'avais envie quand même de faire une expérience intéressante. Donc je vais voir j'ai une amie qui mettait son enfant à l'école, dans une école privée, à Lennon School, c'est une école où ils apprennent en maternelle l'anglais. C'est des enfants qui sont souvent en transit, les parents sont diplomates, etc. Ce qui fait que c'est des classes très très mélangées, où ils communiquent a priori tous plus ou moins en anglais. Je vais à la directrice et je lui dis, voilà, j'aimerais donner des cours de chinois. Ce qui m'intéresse, c'est que les enfants sont de nationalité très variée et qu'ils n'ont pas encore, ils ne savent pas encore très bien lire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits, c'est les maternelles. Et elle me dit, mais que vous voulez faire ? Alors, je lui dis, je voudrais faire un atelier de chinois, 45 minutes, avec des enfants de 4 à 5 ans. Une femme assez ouverte, mais qui me dit, écoutez, je pense que vous n'aurez aucun public, mais vous m'avez l'air assez gentille, assez mignonne. Bon, essayez une fois, vous verrez bien. À la fin de l'année, j'avais plus de 50 enfants, alors j'avais plein de groupes et tout. Et c'était extraordinaire. Parce que après, j'ai pas fait ça que à l'école. J'ai fait ça pour une dame qui avait adopté deux enfants, deux petites chinoises. Une qui s'appelle Anne-Gloria et l'autre qui s'appelle Victoire. Qu'elle avait fait adopter genre en hélicoptère. Enfin, c'était une institution à Taïwan qui s'occupe de ça, qui ramasse les petites filles. Très rapidement, en les sauvant, en leur donnant des soins, etc. Enfin bon. Et elle avait adopté coup sur coup, comme ça, ces deux petites chinoises. Une avait 3 ans et demi, l'autre 4 ans et demi. Et donc, tous les lundis, je devais aller leur donner des cours de chinois parce qu'elles elles avaient été adoptées toutes petites. Donc, je leur réapprenais leur langue. Et ça, c'était une expérience psychologique, vous allez voir, très, très spéciale. Donc je leur apprends le chinois pendant un an, où je viens deux fois par semaine. En échange, la dame me donnait soit un peu de sous, soit ça aurait pu marcher, elle voulait m'offrir un logement, ce qui aurait pu être pas mal. Et il se trouve que la plus petite ne disait jamais rien pendant les cours. Il n'y avait que la plus grande, Anne-Gloria, qui parlait, qui apprenait très très bien, etc. Et la petite, à la fin de l'année, en fait, avait tout réservé. Elle avait demandé à sa grande sœur de composer mon numéro de téléphone. Qu'un soir, j'entends les petites filles.
À quel âge ?
Celle qui avait 3 ans et demi, la plus petite, qui prend le combiné et qui me dit « Je t'aime en chinois et tu es ma vraie maman. Je veux venir à chez toi, où es-tu ?» Et elle avait préparé son sac, sa valise. Elle voulait partir, elle avait compris que j'étais sa maman. Et sa maman m'a profondément émue. Et évidemment, avec la maman, on s'est mis d'accord qu'il fallait qu'on arrête parce que le transfert était trop dur. Quoi.
Voilà, alors le rapport entre cette histoire-là et votre désir d'écrire des livres pour enfants, à partir de ce moment-là, vous avez pris goût avec la sensibilité des enfants.
Mais je m'entends très très bien avec les enfants. Ouais. Même les bébés, ils me regardent, je ne sais pas. Dans un train, les enfants viennent toujours près de moi, je ne sais pas.
Et j'aimerais rebondir sur cette idée qui me semble très très forte et riche de la thérapie qui peut sortir de l'apprentissage du chinois.
Ça, c'est incroyable.
Oui, pourquoi ? Parce que ça développe justement quelque chose de concret en relation avec le langage.
C'est-à-dire que ça éveille à peu près toutes les facultés, à la fois la mémorisation. C'est pas une langue, contrairement à ce qu'on croit, qui est contraignante. C'est une langue inventive, puisque d'une manière virtuelle, on peut inventer autant d'idéogrammes que l'on veut, puisque ce ne sont que des associations de combinaisons. Toutes les combinaisons sont quasiment...
Oui, on peut inventer, mais au départ, il y a quand même des normes.
Tout à fait. Voilà, mais pour un enfant, quand il comprend ça, il se dit « Ah, oh, mais c'est merveilleux, c'est comme un jeu. C'est un jeu d'association. »
Et l'ordre avec lequel il faut les tracer est difficile parfois pour un enfant.
Non, parce que moi, je leur enseigne ce que signifie chaque trait. Donc quand il dessine le roi, il sait qu'il commence par le ciel, ensuite il fait les bras, enfin, c'est-à-dire l'être humain qui est entre le ciel et la terre, ensuite il fait la terre, il termine par ce qui relie le ciel et la terre, c'est-à-dire la divinité qui est censée représenter le roi.
Et ça, vous y arrivez pratiquement pour tous les signes de trouver un ordre
si
qui
je ne peux pas
à une logique.
Voilà. Oui, alors, il y a certaines.
C'est pas le cas pour tous.
C'est pas le cas pour tous, mais pour les idéogrammes de base, pour que les enfants fassent des phrases simples, c'est vraiment facile. Hein.
Alors passons au
Puis
domaine.
J'ai plein d'astuces.
Ayons confiance.